podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholec, je suis journaliste et le temps d'un trajet en métro ou en bus, eh bien ensemble, nous allons découvrir et comprendre un sujet de recherche. Aujourd'hui, nous allons parler de l'usage de l'intelligence artificielle au travail ou plutôt de ce qu'elle peut transformer. Est-elle révolutionnaire cette IA ou est-elle finalement devenue un outil comme un autre? Eh bien c'est précisément ce sur quoi travaille notre invitée. Bonjour Mélanie Biencourt.
Bonjour.
Alors vous êtes doctorante en ergonomie au sein du laboratoire CERTOP, le Centre d'études et de recherche travail organisation pouvoir à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et également au sein du laboratoire psychologie de la socialisation, développement et travail. Je le disais, vous travaillez sur l'usage de l'IA au travail. Votre discipline scientifique, c'est donc l'ergonomie. Pour commencer, on va peut-être rappeler ou présenter ce qu'est l'ergonomie.
Alors, souvent, quand je dis à des gens que je suis ergonome, on me parle de la chaise à régler sur son bureau. Et en fait, alors c'est pas une vision qui est totalement fausse, puisque l'ergonomie, l'idée, c'est d'adapter le travail, les environnements de travail, les outils, etc., aux hommes et aux femmes. C'est une vision extrêmement réductrice de ce qu'est l'ergonomie, puisque l'ergonomie, il y a une dimension donc, physique, évidemment, on va s'intéresser à la dimension physique, donc tout ce qui va être gestes répétitifs dans le travail, les vibrations, tout ce qui peut avoir un impact en fait, sur la santé au travail. Mais il y a également toute la dimension cognitive et organisationnelle, donc que ce soit les relations avec les collègues, donc la dimension collective, les horaires de travail, l'impact que ça va avoir aussi, et tout ce qui est charge mentale, enfin voilà, on a en fait une approche globale du travail. Et pour regarder ça, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'activité. Donc l'activité, en fait, c'est le travail réel en opposition au travail prescrit. Donc pour donner un exemple peut-être un petit peu concret, par exemple, dans les EHPAD, il peut y avoir dans certaines chambres des lèves-personnes. Donc le travail prescrit correspond au fait que les aides-soignantes et aides-soignants doivent utiliser ce lève-personne pour manipuler les gens. Et en fait, quand nous, on va réaliser des observations, des entretiens, on peut se rendre compte que ce lève-personne n'est pas utilisé et on va essayer de comprendre pourquoi. Ça peut être lié à la conception de l'environnement, ça peut être lié au fait qu'en fait, ils n'ont pas le temps de mettre en place ces choses-là. Et voilà, nous, on va vraiment aller voir comment les gens réalisent le travail en fonction des contraintes qu'ils ont, en prenant en compte leur santé, tout en essayant d'atteindre des objectifs de performance liés à l'entreprise.
Vous travaillez finalement, l'ergonomie travaille du point de vue de la personne en fait, qui effectue la tâche.
Exactement, on s'intéresse vraiment aux personnes en situation de travail et c'est
et
notre
forcément
porte
au cas par
d'entrée.
Cas.
Voilà, c'est notre porte d'entrée sur le terrain et on va vraiment voir les gens, c'est-à-dire que pour le coup, l'ergonomie, ce n'est pas une discipline qui se fait en laboratoire. On essaye d'étudier toute la complexité en fait, de la situation.
L'ergonome que vous êtes s'est penché donc sur cet outil de travail qui est assez récent, finalement, qui est l'intelligence artificielle. Pourquoi vous y êtes intéressé? Précisément parce que ça se développe et que cette technologie, elle offre un vaste champ de possibilités.
Voilà, alors moi, sur mon projet de recherche, à la base, il y avait un outil d'IA qui était en train d'être développé, parce que j'ai commencé ma thèse en 2019. Et c'était donc avant le boom médiatique qu'on a pu voir sur l'intelligence artificielle. Mais il commençait à y avoir de plus en plus de projets sur l'intelligence artificielle. Et c'est dans ce cadre-là que ma thèse s'est développée. Parce qu'il y a eu un outil qui a été créé donc, par des industriels équipementiers. Donc c'est des personnes qui équipent des industries dans le cadre d'un centre de tri. Cet outil-là, en fait, il soulevait un certain nombre de questions par rapport aux transformations que ça allait avoir sur le travail des trieurs en cabine de tri. Parce que du coup, c'était dans les centres de tri. Donc, il faut s'imaginer que les centres de tri, c'est là où arrivent tous les déchets qui sont triés par des personnes humaines. Mmh. Et l'intégration d'outils d'IA dans ces situations de travail, ça va forcément transformer, que ce soit l'organisation plus largement le travail.
C'est quoi les questions que ça soulevait justement?
Alors, pour ça, je pense qu'il faut revenir un peu sur ce qu'est l'outil en question.
Ouais.
Dans les centres de tri, il y a des personnes sur des tapis qui trient. Donc, c'est des gestes répétitifs. Ça va très vite en fait. Et les industriels équipementiers, ils se sont posé la question de comment développer un outil pour prévenir les TMS. Donc les TMS, ce sont des troubles musculo-squelettiques. C'est la première cause de maladie professionnelle en France. Ça représente 80% des maladies professionnelles, donc c'est pas rien. Et donc pour répondre à cette question-là, ils se sont vus une opportunité finalement dans l'intelligence artificielle. Et ils ont développé avec des chercheurs en informatique un outil qui, à partir d'une caméra de profondeur, permet d'identifier les gestes qui vont être réalisés sur les trieurs dans les centres de tri. Sauf que, alors, c'est un outil qui peut être intéressant, mais qui soulève aussi des questions. Donc, il faut un peu s'interroger sur ça. Et nous, en ergonomie, et plus largement, en fait, c'est largement reconnu dans la communauté scientifique, les troubles musculo-squelettiques, il n'y a pas qu'une dimension physique. Et il y a aussi des facteurs psychosociaux qui sont à prendre en compte, le stress, le management en place, tout ça, c'est des choses qu'il faut considérer aussi. Et cet outil pose la question de finalement, est-ce qu'on ne va pas considérer les TMS que sur l'aspect physique, ce qui serait en fait insuffisant, et est-ce qu'on ne va pas tomber dans une forme de surcontrôle de l'activité des personnes en leur demandant de réduire leurs gestes, alors que l'ergonomie justement considère que les personnes sont acteurs et actrices de leur travail et qu'il faut développer des marges de manœuvre plutôt que les restreindre en fait et être dans une vision très normative.
Ce que vous appelez la variabilité, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, il faut prendre en compte la variabilité des personnes. Donc moi, par exemple, sur les centres de tri, ce que j'ai pu observer en analysant l'activité, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité en fonction des postes, comment ils sont conçus, en fonction des personnes. Selon leur expérience, en fait, ça se traduit par le fait qu'ils vont mettre en place ou non différentes stratégies. Donc, quand il y a trop de produits sur la table, ben, il y en a qui vont retenir la matière pour éviter que leurs collègues aient un monticule qui passe devant eux et qu'ils n'arrivent pas à trier. Enfin, voilà, il y a vraiment différentes stratégies qui vont être mises en place. Et ces stratégies-là, il faut les comprendre, il faut essayer de les développer. Alors, on peut aussi agir sur des déterminants d'un point de vue du process et des choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de tenir compte de cette variabilité-là.
Et en fait, vous remontez tous ces éléments pour finalement en faire quelque chose d'un peu plus global qui soit satisfaisant pour tout le monde, c'est-à-dire et pour le travailleur et pour ce qu'on lui demande d'exécuter.
Exactement. Alors, il y a une... En fait, l'ergonomie vise à la fois la préservation, le développement de la santé des personnes, mais on tient compte de la performance. Et de toute façon, une personne qui ne va pas bien au travail, elle sera moins performante, pour parler en termes de performance, qu'une personne qui est bien dans son travail, pour qui son travail a du sens et qui est content de faire ce travail. Moi, dans les entretiens que j'ai pu mener, j'ai plein de trieurs qui m'ont parlé du sens qu'avait leur travail pour eux et c'était quelque chose d'important puisque alors il y a à la fois le fait que ils ont l'impression de enfin et ils font quelque chose d'utile pour la société puisque il y a avec toute la dimension environnementale le tri c'est important et ils me disaient qu'ils étaient contents quand ils avaient fait une bonne journée quand ils avaient pu trier suffisamment de déchets. Alors on parle de produits dans les centres de tri, mais quand ils avaient pu trier suffisamment de produits, et ils me parlent beaucoup de cette impression de travail bien fait en fait. Ça c'est hyper important pour les travailleurs et en fait c'est dans plein de domaines pour le coup, ça c'est pas lié que au centre de tri.
Dans votre travail de thèse, est-ce que l'IA, en tout cas sur ce terrain-là des centres de tri, est-ce que l'IA s'est révélé le seul outil pertinent ?
Alors justement, moi, mon travail de thèse porte sur le fait de me questionner sur est-ce qu'il y aurait d'autres développements possibles. Alors moi, c'est quand même très centré sur l'IA, mais évidemment, il y a aussi d'autres leviers d'action qui ressortent, notamment sur, ça peut être des leviers organisationnels, alors moi sur les centres de tri où je suis allée, il y avait déjà eu des ergonomes qui avaient par exemple mis en place des rotations sur les postes, pour éviter que les personnes soient toujours sur le même poste et sursollicitées, et ça permet comme ça d'encourager, on va dire, cette variabilité gestuelle. Mais non, il n'y a pas que l'IA et justement...
Que l'IA, c'est très tentant tellement il y a de choses possibles.
C'est très tentant et je pense que c'est important d'avoir une vision où on considère à la fois tout son potentiel, parce qu'il y a un potentiel et ça peut être intéressant pour plein de choses, mais qu'il faut toujours se questionner sur est-ce qu'il y a aussi d'autres solutions, est-ce que c'est vraiment utile. Donc nous, on part vraiment du travail et de l'activité des personnes pour se questionner sur quels sont les besoins de ces personnes au vu des contraintes qu'ils ont dans leur travail et au vu finalement de tout toute la complexité de la situation.
L'ergonomie, c'est donc une science ?
Tout à fait.
Et comme toute science, j'imagine qu'elle a ses méthodes. Parce que certes, vous travaillez à partir du terrain, mais il y a quand même des méthodes.
Oui, alors l'ergonomie...
Est-ce que vous êtes inspiré d'une méthode pour votre thèse, par exemple ?
Tout à fait. Alors l'ergonomie, ça reste une discipline d'action. C'est-à-dire qu'on part du terrain, mais il y a aussi des modèles, des théories, des courants dans cette discipline-là. Et un des modèles classiques de l'ergonomie aussi, c'est un modèle sur les situations de travail qui s'appelle le schéma à 5 carrés, qui permet de modéliser en fait toutes les régulations qui vont être mises en place dans l'activité des personnes, avec en fait finalement en fait il y a 5 carrés.
Mmh.
Et il y a un carré sur l'entreprise et les effets, les déterminants en fait liés à l'entreprise, les déterminants de la personne, donc c'est-à-dire toutes les caractéristiques, l'âge, l'expérience, tout ça, qui vont avoir des effets en fait sur comment la personne met en place son activité, c'est-à-dire les régulations dont je parlais tout à l'heure, la variabilité et tout ça.
Ouais.
Et tout ça, ça va avoir des effets aussi sur la personne et l'entreprise en termes de performance, en termes de santé. Et tout ça, il y a des boucles de rétroaction qui ont été ajoutées ensuite à ce modèle-là. Des boucles de rétroaction donc qui sont hyper intéressantes parce que ça invite à regarder justement les régulations qui sont mises en place et comment les effets sur les personnes en termes de santé peuvent au final créer des cercles vicieux ou au contraire des cercles vertueux.
Ouais. Et vous, vous êtes inspirée d'un modèle alors ou pas pour votre
Alors
thèse
plusieurs en fait, ouais. Plusieurs parce qu'il y a après des modèles un peu plus spécifiques sur différents points. Donc oui, je me suis inspirée de beaucoup de modèles. Et ce qui est important, c'est que ces modèles aient quand même la même approche de l'homme et des femmes au travail.
Mmh.
C'est-à-dire cette approche où on ne considère pas les gens comme des mécanismes mettant en place des choses, mais comme des acteurs qui vont pouvoir aussi, eux, avoir des effets sur l'entreprise et qui vont être des personnes qui vont évoluer au fil des années avec leur expérience et tout ça.
Si je résume ce que vous êtes en train de me dire, on n'est pas des machines, quoi. Donc,
exactement, on n'est pas des machines, on est des êtres complexes et
exactement.
Qui évoluent au fil du temps.
Et oui. Est-ce que l'IA, du coup, parce que c'était la question de départ et c'est finalement la quête ou la recherche aussi de votre thèse, est-ce que l'IA, pour vous, est un outil révolutionnaire ou finalement, c'est un outil comme un autre ?
Ça dépend du prisme avec lequel on regarde les choses.
Ah.
J'aurais tendance à donner une réponse qui dit un peu des deux. Puisque si on regarde au niveau des révolutions industrielles, l'intelligence artificielle fait partie aussi de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, donc on est en plein dedans, donc qui va entraîner des mutations du travail qui est en train en fait déjà d'entraîner des transformations.
La quatrième révolution industrielle, c'est quoi ? C'est l'ère du numérique ?
Alors, c'est tout ce qui est en lien avec les objets connectés,
ouais.
Les systèmes cyberphysiques, etc. C'est en lien avec l'industrie 4.0.
Mmh.
Et donc, ça regroupe vraiment plein de choses. L'IA, c'est pas la quatrième révolution industrielle,
oui.
N'est pas égale à l'IA. L'IA en fait partie. Mais c'est aussi, du point de vue des ergonomes et des sciences humaines et sociales aussi, plus largement, des questions en fait, qui existent depuis longtemps, de la transformation du travail, de l'automatisation et tout ça, qui existaient déjà dans les années 80 avec les systèmes experts. Et donc, de ce point de vue-là, finalement, nous, on l'aborde plus comme un outil ordinaire qui va certes transformer le travail de par les usages que les personnes vont en faire. Mais voilà, Luc Julia, qui est le cofondateur de Siri, compare l'IA, enfin, il fait à un moment un parallèle entre l'IA et un marteau.
Mmh.
Et il précise que, en fait, un marteau, c'est un outil qui sert donc à enfoncer un clou. Mais selon ce qu'on va en faire, les usages vont être différents. Donc, il le compare vraiment au marteau, qui est un outil plus qu'ordinaire. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que finalement, ce qu'il y a derrière l'IA, c'est des questionnements qui se prolongent et qui mènent à de nouveaux défis qui ne sont finalement pas si nouveaux et qui sont juste peut-être plus présents sur le devant de la scène médiatique au niveau du grand public.
Merci Mélanie Biencourt.
Mais merci à vous.
On a une petite tradition sur On Air, c'est de demander à notre invité un conseil de lecture d'expo, conférence, ce que vous voulez, un livre qui parle du sujet dont on vient de traiter et qui vous paraît pertinent, vous avez envie de partager.
J'aurais deux petites choses à partager. J'ai pensé à une conférence, donc le master SITFH, Ergonomie cognitive, innovation technologique et facteurs facteur humain, chaque année, en fait, organise une conférence.
À l'université Jean Jaurès, toujours.
À l'université Jean Jaurès, exactement. Et en 2023, le sujet était collaboration humain-IA, transformation des usages et impact sur le travail. On est en plein dedans et c'était super. Et c'est en ligne sur YouTube, donc c'est vraiment accessible facilement. Et le deuxième point, alors là, c'est un peu plus sur les questions de travail, mais j'aimerais parler d'une association de laquelle je fais partie, qui est une association toulousaine qui fait beaucoup d'événements à l'Université Toulouse Jean Jaurès et qui est vraiment ouverte aux étudiants, à toutes les personnes qui s'intéressent aux questions de travail. C'est le RESACT, Recherche scientifique et amélioration des conditions de travail, que vous pouvez suivre sur LinkedIn et Instagram. Et en fait, il y a plein de conférences, donc ça va être sur plein de sujets. Il y a eu des conférences déjà sur le travail des femmes, le sens du travail et aussi évidemment les innovations technologiques. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'on fait. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres choses sur l'intelligence artificielle qui arrivent.
Ben c'est noté. Un grand merci, Mélanie Biencourt, d'avoir accepté notre invitation. On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. La réalisation est signée Cédric Perronnet du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse-Jean Jaurès et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr. Vous pouvez aussi retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques. On Air.